T'inquiète, c'est 4:30.
Bien, nous allons commencer. Il est 16h30.
Welcome everyone to today's at-large IDN.
Bienvenue à cette réunion du groupe de travail sur les IDN d'at-large. C'est le mercredi 17 octobre. Il est 16h30. Souvenez-vous de dire vos noms lorsque vous parlez. Parlez à un débit raisonnable, s'il vous plaît. C'est Evan qui prend la parole. Merci de rejoindre ce groupe de travail. J'ai une petite introduction à faire. On se trouve à la réunion du groupe de travail sur les IDN d'at-large. Donc, l'ordre du jour qu'on a préparé a été envoyé et on a inclus ce qu'on est en train de faire. On devrait cependant passer l'appel, il me semble, avant de commencer. Dennis court un peu partout. On va commencer par lui. Avec des petites introductions. Je suis Dennis Janis, consultant sur les variantes IDN. Je suis Tijani Benjamin, membre d'ALAC. Vas-y, Paul Aperalo. Jean-Jacques Subernin, membre d'ALAC. Madashani, personnel d'ICANN. Gisela Gruber, personnel d'ICANN. Heidi Ulrich, personnel d'ICANN. Edmund Chung, président du groupe de travail et aussi liaison pour ALAC. Je suis Andrew Sullivan, consultant pour ce projet 2.1 des IDN. Garth Bruin, président de Naralo. Binali Abdelrahim, membre d'ALAC. Sylvia Kellen-Leiter, Lacralo. Sergio Salinas Porto, membre ALAC pour Lacralo. Eduardo Diaz, ALAC. Merci. Je vois qu'on a des gens à nos côtés. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre une place à la table. On a toujours des chaises. Dennis veut commencer tout de suite. Oui, dit Dennis, je m'excuse, mais je voulais commencer tout de suite. Je voulais parler des variantes IDN et du programme TLD des variantes IDN d'ICANN. Pour ceux qui ont rejoint la table, je vous demanderai de vous présenter en trois mots, si vous pouvez. Je suis Chris Telling de l'University College London. Non, ça va, il est occupé, on va commencer. Mais notre ordre du jour, alors, visait à vous mettre à jour sur le travail qu'on a fait, qui était pertinent, et puis on voulait se consacrer cet espace à deux sujets. La réponse aux commentaires publics sur le projet des variantes IDN. On a publié une version préliminaire pour avoir des commentaires publics. Je pense que c'était en fin de septembre. Et la période de commentaires publics. Je m'excuse, je n'arrive pas à passer de diapo. Je vais continuer de parler de toute façon. Eh bien, voilà les problèmes actuels. Sont ceux que vous voyez sur l'écran. Donc, la période de commentaires publics a commencé en fin de septembre et elle finit ce vendredi, le prochain vendredi. juste à la fin de la réunion de Toronto. Et puis, on aura une période de réponse jusqu'au 9 novembre. Sur ce sujet particulier, on a commencé à travailler sur une réponse que l'on voudrait ajouter à la période de commentaires publics. On a envoyé en même temps une note il y a quelques heures. J'espère que vous pourriez la voir, que vous l'aurez vue déjà peut-être. Sinon, on essaie de traiter cette note ici pour avoir vos commentaires. La réponse à la version préliminaire qu'on m'avait envoyée, qui contenait des points très spécifiques. C'était des points qui félicitaient le travail du groupe, du projet. Lorsqu'on voit le progrès fait, on voit qu'ils ont beaucoup travaillé depuis le début de la deuxième étape du VIP. Je ne sais plus comment l'appeler, en fait. On va dire que c'est le projet des problèmes des variantes IDN, donc voilà l'acronyme VIP. Alors, c'est le programme des variantes des DICAN 2.1 des Denis. Bien, donc c'est le programme des variantes IDN TLD DICAN. On a oublié le T dans l'acronyme. Mais c'est très confus. C'est Inman qui parle. Alors, c'est le projet le programme des variantes IDN TLD DICAN. Sur la diapositive précédente, vous avez vu le lien pour le commentaire public. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire. C'est un bon document, c'est un peu technique, mais on parle beaucoup de processus sur le document, donc je pense que ça serait intéressant pour vous de le lire. Pour ce qui est de la réponse, au moins, à mon avis, on a fait de bons progrès, et je l'ai dit, comme ALAC, en tant qu'ALAC, on a encouragé le projet et on a accepté Rinalia comme observateur du groupe, ce qui est très bon. Et le cadre de travail que l'on propose a deux panels, un qui serait primaire et un panel secondaire. Et on cherche à avoir une communauté d'une langue ou d'une écriture qui travaille ensemble en tant que panel principal et qui fera une proposition sur les politiques des variantes IDN que l'on va mettre en œuvre. Et puis, on aura un panel secondaire formé pour vérifier la validité et la sécurité et la stabilité de la proposition. En termes généraux, ce cadre paraît très bien conçu et cohérent avec ce qu'on dit comme ALAC sur ce qui nous semble et le sens de notre communication pour les langues qui ont d'autres écritures et pour permettre aux différentes communautés de travailler à leur propre rythme aussi le long du processus. C'est quelque chose de très important. Donc, ce sont les points qui félicitent le travail de l'équipe du projet. Et puis, nous avons trois points sur les préoccupations que nous voyons du point de vue d'ALAC. Le premier point est la composition que l'on propose pour les deux panels sur la base du document public actuel. Aucun des deux panels n'espère avoir des experts en politique. Il paraîtrait en même temps que l'on aura une tendance un peu plutôt technique. On pourrait dire qu'il s'agit d'un document très technique et que donc ce serait bon, mais ALAC s'est toujours engagé et on sait que les problèmes d'IDN et des variantes d'IDN sont communes à la technologie et à la communauté. Juste avant que Rinalia ne parle, vous êtes libre de lever la main. C'est comme un groupe de travail ici. Alors, vous pouvez m'interrompre lorsque vous voulez préciser ce que je dis. Alors, Rinalia, c'est Rinalia Abdul-Rahim. Je pense que ce serait utile si l'on clarifiait, si l'on préciserait ce que vous voulez dire par politique. Merci, c'est Edmund Chung qui reprend. C'est une question très difficile. Ce qu'on veut dire par politique. Je pense que même les gens qui travaillent sur politique à ICANN ne le savent pas. Et Dennis veut essayer de répondre. Dennis dit, en fait, c'est juste pour dire que les politiques, et dans le contexte technique des IETF, veut dire l'ensemble de règles applicables. Donc, politique est un concept très fluide dans sa définition. Si c'était une activité IETF, on ferait des politiques au lieu d'avoir des règles. Mais politique a tant d'autres connotations qu'on dit règles en général. Mais les politiques incluses dans les projets 6 et 7 et le projet 2.1 sont des projets complètement techniques au niveau du panel secondaire parce qu'il s'agit de protéger la sécurité de la racine. Donc, lorsqu'on a des problèmes de politique, on va analyser des politiques pour les processus qui évaluent et qui délèguent les projets 6 et 7. Ce ne serait pas approprié ici, mais bon, puisque vous le mentionnez, je vous donne mon avis. Merci, Dennis D. Edmond. Alors, on continue. Ici, c'est moi qui ai mis mes idées et j'espérais avoir les vôtres à partir de cette diapositive. En tout cas, même s'il y a des règles techniques, je pense qu'il y a aussi des politiques administratives et cela aurait aussi des implications qui pourraient être importantes. Et c'est ça qui nous préoccupe. Il y a une préoccupation particulière et c'est que la proposition en ce moment inclut un panel secondaire qui vérifie le travail du panel principal qui sera formé de consultants payés par ICANN. Et c'est une exigence particulière. Andrew Sullivan qui prend la parole. Une des questions que j'avais pour vous, puisqu'il s'agit de préoccupations, on a mentionné certaines de ces préoccupations lors de la séance qu'on a maintenue cette semaine. Et bien sûr, certains de ces commentaires ont été notés et il y aura des réponses là-dessus dans la prochaine version. Je comprends pourquoi vous pouvez vouloir inclure ces problèmes dans votre réponse à l'ébauche que vous avez. Mais est-ce que ça vous préoccupe en tant que tendance dans le long terme? Ou alors est-ce que vous croyez que ce sont des problèmes qui ont déjà été traités dans l'accord de vendredi et samedi? Merci, c'est Edmond encore une fois. Je pense que la plupart ont été réglés, mais comme vous dites, puisque le document publié est toujours disponible pour les commentaires publics, les réponses seront spécifiques à ce document particulier. Parce que on ne voit pas publiquement ce que vous avez sur votre ordinateur. Alors, oui, je dirais que la plupart des problèmes ont été réglés. Ce n'est pas toujours le cas, on n'est pas forcément d'accord, mais pour cette préoccupation particulière que vous avez mentionnée par rapport aux consultants payés, on verra ce qu'est la prochaine étape et comment la communauté nous répond. Du point de vue d'Atlarge et d'ALAC, on dirait qu'il s'agit d'une préoccupation, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Puis, dans un autre point, on avait le fait que les processus du panel secondaire ne sont pas vérifiés, au moins sur cette version du document qui a été publié pour commentaire public. C'est-à-dire que le panel secondaire peut toujours dire non et s'opposer toujours sans avoir de processus de révision ou sans façon de que la communauté leur dise qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs objections. est le concept en ce moment et que ça prendra l'unanimité du panel secondaire complet pour dire oui si on a une proposition d'une communauté d'une autre langue, ça constituera aussi une occasion de blocage par le panel. Merci, c'est Dennis Jennings encore. Je voudrais savoir, et ce n'est peut-être pas très clair dans le document, c'est si les décisions vont être publiques et les processus vont être transparents et les décisions vont être publiées pour les deux panels avec un raisonnement et une justification pour chaque réponse. Ce sera donc un processus très ouvert, très disponible pour que les gens le prennent au sérieux. Puisqu'il s'agit principalement d'un panel de sécurité technique, le panel secondaire, on croit que cette approche serait la correcte et on voudrait garantir que ces gens, que ce soit des consultants payés ou pas, doivent remplir et doivent suivre un contrat avec ICANN. Ils doivent adhérer à des conduites éthiques, à un code d'éthique. Et donc, si ce genre de situation existait, que si le panel opposait des objections à chaque fois, de façon répétée, ça constituerait une infraction du contrat avec ICANN, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Ce n'est pas particulièrement pour ce document, mais c'est pour répondre à ce genre de préoccupations ou d'inquiétudes que l'on pourrait avoir, et j'espère que ça sera inclus dans la prochaine version. C'est Andrew Sullivan. Oui, bien sûr, je pense que c'est correct. Ce serait bien de suivre cette voie de raisonnement et continuer à travailler sur ce que vous avez dit. On croit que ces exigences sont une caractéristique, ce n'est pas un problème. Et le point de cette procédure est de garantir la sécurité. La sécurité est le principal. Si la santé était la seule chose qui importe, on ne ferait rien. Mais même si on a accepté de prendre des risques, on essaie de minimiser les risques que l'on peut prendre. Et si on requiert l'unanimité, c'est parce que si quelqu'un a des doutes, ça veut dire que les membres ne sont pas sûrs et qu'ils ne devraient pas continuer. C'est cohérent avec les autres parties du processus, avec la zone racine, et on croit que c'est la bonne mesure, c'est correct dans ce cas-là. Merci Andrew et Dennis, c'est Edmond. Vous savez que j'ai mis ma casquette en ce moment et j'ai des problèmes qui me viennent à l'esprit. Et vous savez que je suis d'accord avec vous et avec la plupart des points. Et je voudrais bien m'exprimer, mais si je parle en tant que membre de la GNSO pour l'Asie, ce serait un peu différent peut-être. Je suis d'accord avec vous en tant que membre d'ALAC. Mais bon, si on revient au point de vue d'ALAC, l'unanimité est un peu un avertissement. Si on a des consultants payés, ça pourrait aussi être quelque chose que l'on devrait suivre et on devrait être alerte. Du point de vue d'ALAC, en même temps, on voudrait considérer que ces documents, même s'ils sont très techniques, devraient être lus par la communauté. Et cela inclut à de large. Et je pense que du point de vue du public général, on doit considérer que ce document va être lu par eux, c'est-à-dire qu'on doit l'écrire pour eux. Il faut donc considérer comment on va intégrer ce document. J'ai des informations en même temps qui n'ont pas été incluses. Pourquoi on ne l'a pas fait? Et c'est parce que c'est un peu un début pour les communautés qui se réunissent, qui ont une autre langue ou une autre écriture et qui s'involuent au début du processus au lieu de venir nous rejoindre dans quelques années. Et peut-être qu'il y aura d'autres communautés qui viendront nous voir plus tard et qui verront qu'il y a des gens qui sont déjà en contact avec nous et qui travaillent avec nous et qui vont devoir s'adapter beaucoup plus. En ce moment, on n'explique pas beaucoup et on n'explique pas très bien quel est l'avantage des personnes qui nous rejoignent à ce point-là. Mais en tout cas, s'ils veulent avoir cet avantage, ils vont devoir agir rapidement. Ce qu'on espère est que la plupart des personnes qui voient ce document soient des candidats pour les nouveaux GTLD qui suivent le processus. Donc, ce serait peut-être utile d'avoir des explications là pour les processus des nouveaux GTLD et des CCTLD aussi. Donc, voilà, c'est tout. Dennis voulait ajouter quelque chose? Merci, je suis encore une fois Dennis Jennings. On a essayé d'équilibrer ce qui nous paraît être des exigences principales, importantes. D'abord, c'est d'avoir un processus de procédure qui nous permette d'intégrer les communautés qui ont d'autres écritures et qui sont prêtes à commencer à travailler. Et puis, on ne veut pas privilégier des personnes qui viennent nous voir tôt dans le processus sur les par-dessus les autres. On essaie donc de réconcilier ces deux idées, de trouver un équilibre entre les deux. On ne peut pas tout faire. Merci, Dennis, de ta clarification. Ça veut dire que cet équilibre serait attaché aux politiques. Lunalia dit « Merci, pour moi, c'est évident ce qu'Edmond veut dire par politique. » Il parle de principe de justice pour traiter ces sujets qui pourraient être politiques. Et on veut savoir si ça correspondra aux experts techniques ou s'il y aura des gérants qui vont travailler dessus. C'est Denis, et merci de ta question. Cette procédure que l'on propose sera présentée pour les commentaires publics et elle devra être approuvée par le directoire avant d'être mise en place. C'est peut-être là que l'on considérera ces équilibres. Mais si on permet à une personne d'agir en premier, ça ne créera pas de résolution de premier mouvement, genre de première arrivée. Benalia, je voulais simplement dire que pour l'instance du panel secondaire où on devrait avoir des consultants payés, ça invitera des discussions pour la communauté à large parce que j'ai laissé entendre dire qu'ils sont peut-être pas complètement d'accord et je pense qu'on devra le discuter. Discutons-le, dit Edmond. Alors, quels sont les arguments? On a beaucoup de conflits le long de ces réunions. Et si Lunalia t'a entendu dire qu'ils sont pas d'accord et tu sais pourquoi, dis-le, s'il te plaît. Merci, Edmond. C'est Rinalia pour le procès verbal. Alors, je vais être l'avocat du diable et parler de ce que j'ai entendu dire. Si les consultants ne sont pas payés par ICANN, quelle serait la valeur qu'ils ajouteraient à la table, à notre groupe, et quels seraient les problèmes qu'ils poseraient? Edmond dit, oui, c'est exactement ce que le document dit en ce moment. Il s'agit de responsabilité. On veut être sûr qu'ils vont être responsables face à ICANN. Et donc, la proposition serait que le panel secondaire complet soit constitué par des consultants payés. C'est l'idée pour cette idée, bien sûr. Puis, pour ne pas avoir des consultants payés, on dit deux choses. D'un côté, qu'on essaie d'éviter d'avoir des conflits d'intérêts, mais en fait, s'ils sont tous payés, en fait, ils s'alignent essentiellement avec ICANN. On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est toujours une question. C'est une question d'intérêt public. Et d'autre part, on dit que si l'on veut éliminer les personnes qui ne veulent pas être payées, je sais qu'on doit parler de ce problème, mais la version préliminaire ne l'inclut pas. Alors, essayez de me suivre. Venalia, encore une fois, je voudrais aussi contribuer à cette discussion avec les arguments pour ne pas avoir des consultants complètement payés. Je l'ai reçu à travers un autre canal. Je ne veux pas dire qui c'est qui me l'a dit, mais je vais le lire. Je voudrais savoir ce que Jean-Jacques, Denise et même Andrew ont à dire là-dessus. Et alors, le cadre dit que, numéro un, pour le panel de sécurité de secondaire, on veut le meilleur avis, puis on veut responsabilité face à ICANN, et numéro 3, on veut pas avoir des conflits d'intérêts. Alors, le meilleur avis implique qu'on pourrait peut-être laisser participer des personnes, indépendamment que ce soit payé ou que ce soit pro bono. Le fait d'éviter des conflits d'intérêts veut dire que s'ils sont payés par quelqu'un d'autre, il faut s'assurer que la personne qui paye n'est pas embauchée et n'a pas de trait avec l'expert, ce qui est difficile à déterminer parce que ICANN a déjà essayé de garantir à ce que les gens n'aient pas de conflit d'intérêts. Pour maintenir la responsabilité face à ICANN, ça pourrait impliquer que la moitié du panel secondaire devrait être payé par ICANN, responsable en tant que consultant payé par ICANN pour leur travail. C'est une autre idée que je voudrais proposer ici. Bien sûr, on a d'autres cadres, mais c'est ouvert à la discussion. Mais je pense que j'étais moi aussi coupable d'avoir mentionné cela lors de la réunion de Los Angeles. Et l'alignement complet avec ICANN pourrait ne pas être dans l'intérêt du public. Mais, enfin, Jean-Jacques? Merci, c'est Jean-Jacques. Je comprends le raisonnement qui a fait proposer ce genre de configuration. Mais dans mon expérience à ICANN, ce qui est encore plus important est de maintenir un niveau de confiance qui permette l'efficience. Pour y parvenir, on doit avoir des consultants payés. Une autre façon de le faire est de ne pas avoir des consultants payés. Mais en tout cas, ce dont on a besoin est d'avoir le président ou la personne qui dirige ce groupe de travail et que ce soit une personne qui intègre les intérêts de ce groupe. Mais je pense qu'on ne devrait pas être limité par des règles telles que la proportion qui devrait être payée par ICANN directement ou pas. Je ne pense pas que ce soit important. Et pourtant, on devrait avoir une déclaration de conflit d'intérêts très claire de la part de toutes les personnes qui appartiennent pour que ce soit mis par écrit et pour qu'on puisse revenir dessus tout le temps. C'est mon premier point. Le deuxième point est qu'il est toujours productif d'avoir un mélange. Donc, ce sera le directeur de ce groupe qui devra décider ce qui est faisable en termes de concurrence et d'équilibre. Comme partout dans ICANN, je pense que c'est plutôt une question d'équilibre. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de règles strictes sur ce qui constitue l'équilibre. Merci Jean-Jacques, c'est Edmond. Je pense que c'est un très bon commentaire. C'est exactement ce que je pensais. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir des règles strictes à ce niveau, mais si on prend note du commentaire et on l'ajoute, ce serait le principe de l'équilibre qui est plus important que le fait d'être payé ou pas. Pardon, c'est Jean-Jacques. Je voulais faire un commentaire. Je voulais mentionner quelque chose d'autre que j'ai oublié. C'est la transparence et la responsabilité qui permettent la qualité du groupe et sa confiance aussi. Si vous avez ces mécanismes intégrés, la proportion est moins importante. Merci Jean-Jacques, c'est Edmund Chung. Je ne sais pas si Dennis, tu veux dire quelque chose. Bien, alors on aura Andrew. Oh, alors Rinalia dit, je veux clarifier quelque chose. Alors ce que vous dites est que vous êtes d'accord que le panel secondaire devrait avoir la représentation, une représentation équilibrée entre consultants payés et consultants pas payés. Non, dit Jean-Jacques, c'est exactement ce que je n'ai pas dit. Et c'est ça le problème pour les personnes anglophones comme langue secondaire. Ce que je disais est que les proportions ne m'importent pas tellement. Le principe est qu'il devrait y avoir un certain équilibre, mais qu'on n'a pas de proportion fixe par rapport à cet équilibre. Ça dépendra du président de ce groupe. On devrait cependant avoir des principes clairs sur la responsabilité et la transparence. On devrait avoir une déclaration de conflit d'intérêts très claire de la part de tous les participants, c'est-à-dire que ce qui importe est de déclarer les principes et de les respecter, qui est plus important que n'importe quel équilibre ou proportion.
Merci Jean-Jacques. J'ai bien compris ce concept, je pense, et personnellement, je suis d'accord avec ce concept tel qu'il vient d'être exprimé. Andrew va prendre la parole et nous avons des questions à distance. Andrew Sullivan. Donc, si ce n'est pas clair dans l'ébauche de documents, je crois que vous devriez nous envoyer des commentaires durant la période de commentaires pour vraiment souligner la manière dont nous pouvons rendre cela plus clair. Donc le point de procédure, le fait d'avoir deux panels, c'est exactement pour s'assurer qu'on ait une forte transparence, celle dont vous parlez. Le deuxième panel doit justifier toutes les décisions qu'il prend en détail et le justifier publiquement. Il y a ensuite des commentaires publics et ce panel secondaire doit prendre en compte ces commentaires et y répondre. Et s'il y a une modification, eh bien, on repart donc à zéro et il y a une nouvelle période de commentaires. Si les personnes à ce niveau-là sont simplement en désaccord, quelqu'un devra prendre une décision. Est-ce que quelqu'un veut bloquer le processus, ce qui est une possibilité, ou bien c'est un bon jugement technique qu'il faut prendre en compte. N'oubliez pas que l'objectif ici est que on connaît toujours la position par défaut. Donc dans chaque cas où le panel se justifie positivement, c'est la même raison pour laquelle, dans un autre cas, nous allons agir. On parle de racines. Ici, on parle de ressources partagées. Et donc, l'approche la plus conservatrice doit être engagée et prise. Donc, j'espère que c'est clair dans le document. J'espère que ces principes de transparence sont présents et c'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir de processus d'appel, de procédure d'appel pour le deuxième panel. Nous devons avoir cette période de commentaires publics. Si nous avons un deuxième panel qui pose vraiment des problèmes, à ce moment-là, la question, ce n'est pas s'ils sont payés ou pas, mais il y a un contrat entre le deuxième panel, puis il peut y avoir des sanctions, on peut retirer ces personnes du panel. Donc, nous devons utiliser les procédures que nous avons déjà plutôt que d'avoir des nouvelles couches rajoutées, des couches qui permettraient, par exemple, de faire appel. Donc, Rinalia veut réagir. Et ensuite, je verrai la question qu'il y a à distance. Oui, je voudrais souligner à nouveau ce qui a été dit par Andrew. vous nous dites, tant qu'il y a une obligation contractuelle, qu'il soit payé ou pas, ce n'est pas la question, mais c'est l'obligation contractuelle qui compte. Ça me satisfait, mais je crois que ça devait être débattu au niveau de At Large. Oui, vous voulez réagir là-dessus? Oui, Dennis Jennings, je voulais dire que ce programme est contrôlé par un groupe du conseil d'administration de l'ICANN et nous sommes sous contrôle de ce groupe du directoire et la nature contractuelle a été soulignée, les commentaires publics, la transparence, l'éthique, les critères éthiques, les conflits d'intérêts, les déclarations d'intérêts plutôt que conflits d'intérêts, parce que c'est déclaré un intérêt. C'est une différence, une nuance importante. Donc, il y a un contrôle très fort. Merci, Dennis. J'aimerais rapidement aller à une question et ensuite revenir vers vous. Je crois que j'ai une réponse très claire qui sera non. Est-ce que la définition des variances, c'est les variances linguistiques, par exemple pour point Moscou et point Mokba en cyrillique, est-ce que ça c'est considéré comme des variantes, des variances? Qu'en est-il de point .org et point .org en cyrillique? Moi je crois comprendre que la réponse la plus courte est non. Donc la réponse est non. Donc, YJ, vous avez la parole. Oui, eh bien, je ne connais pas bien ce sujet. Donc, je ne sais pas si je devais m'exprimer. Mais en tant qu'observatrice du processus, la participation de la communauté qui doit être pertinente ne me semble pas présente. Donc, j'aimerais vous rappeler du raisonnement pour lequel on devait être enthousiasmé par les IDN, on nous a dit que c'était vraiment pour donner aux communautés la possibilité de s'engager plus. Mais là, on a toujours ces problèmes qui se posent en anglais, ces problèmes un petit peu juridiques, complexes, des obstacles nouveaux, des obstacles assez importants à franchir. Je me demande si l'ICANN pouvait faciliter un petit peu l'aspect multilingue pour ces discussions et ce qui permettrait un meilleur engagement de la communauté. Parce que là, j'ai l'impression que l'on dépend un petit peu toujours de ces consultants payés. Et on dépend de consultants payés, ça, on n'a pas assez de bénévoles venant de différentes communautés parce qu'il n'y a pas assez de compréhension, il n'y a pas assez de bonne communication, il y a ces problèmes linguistiques, il y a toujours l'anglais qui est la langue principale, c'était mon observation. Oui, avant de clarifier cela, est-ce que vous dites que le rapport final devrait être en plusieurs langues pour que l'on puisse le lire? Oui, oui, c'est une chose. Vous avez également mentionné le fait que les panels eux-mêmes, est-ce que vous voulez dire que les panels devraient être en mesure de travailler dans diverses langues? Ou bien est-ce que c'est la composition du panel secondaire ou primaire qui vous pose problème parce qu'il n'y a pas assez de représentation régionale, représentation internationale? Oui, oui, ce serait l'idéal, mais en réalité, je crois que il faut identifier les bonnes personnes qui peuvent contribuer à ce type de processus, ce qui n'est pas facile et ce qui peut prendre du temps, mais à long terme peut-être. Ce n'est peut-être pas possible pour tout de suite, mais vous pensez que c'est important également que ça soit traduit. Donc, Oui, Denise Jennings. Nous avons essayé de faire participer un maximum d'experts de la communauté lors de la première phase. Nous avons eu des panels, 6 panels, par exemple Dev Nagri. Je suis sûr que leurs débats ont été faits par le script Dev Nagri, donc je ne sais même pas exactement quelle langue, le hindi. Je suis sûr que le panel chinois a travaillé en chinois. Et les rapports ont été produits en anglais et le rapport des problèmes intégrés a été également produit et délivré en anglais. Nous reconnaissons cette limite et ses limitations. La traduction est possible, nous pouvons tout à fait l'effectuer. C'est un document très précis, donc il faut faire très attention lorsque l'on fait la traduction d'être également très précis, parce qu'on ne veut pas rajouter des problèmes. La traduction doit être véritablement faite de très près. Et il y aura donc des conseils du panel secondaire, mais le conseil et le panel primaire sont des personnes qui utilisent notre système, vos systèmes d'écriture, le Devanagari, le chinois. Les propositions qui proviennent du panel, du premier panel, ont fait remonter non seulement notre système d'écriture, mais également tous les scripts chinois et ainsi de suite. Donc, ils ont eu une participation forte au débat. Si vous voulez utiliser le terme contrôler le groupe technique du panel secondaire, contrôle la stabilité et la sécurité de la racine de l'Internet. Mais la question que vous posez des experts multilingues, c'est difficile. Il y a peu de personnes au niveau mondial des experts multilingues qui à la fois ont les compétences techniques et linguistiques. Donc, nous prenons note. Oui, je crois que YJ a dit qu'à long terme, nous voudrions également, et je crois que c'est un point de vue de At Large, pour tout ce que fait ICANN, pour le deuxième panel, il faut qu'il y ait une grande diversité culturelle. Et ce n'est peut-être pas toujours possible, peut-être pas aujourd'hui, mais à long terme, ça doit être un de nos buts. Denis et Jean-Jacques. Donc, oui, si vous le permettez, Denis, j'aimerais rebondir sur ce point. Une chose qui va être de plus en plus claire lors de la prochaine version, c'est que les experts qui ont participé au système primaire, notamment pour les autres types d'écriture, ne seront pas toujours en mesure d'être au second panel. On ne peut pas être à la fois quelqu'un qui propose et qui décide. On ne peut jamais être quelqu'un qui propose et qui décide. Ça, il faut que ça soit bien clair. Il y a une séparation entre les personnes qui, lors du premier panel, ont proposé des choses. Et pour qu'il n'y ait pas de conflit, ces personnes ne peuvent pas être des décideurs au niveau du deuxième panel. Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Subrena, une remarque et une question. Je vois que il devrait y avoir plusieurs phases, à court terme et à long terme. Je crois que c'est difficile. À court terme, en effet, c'est un système complexe avec des experts des différentes communautés linguistiques et différentes scripts opérants dans leur propre langue. Mais il faut que ça soit quelque chose qui soit un objectif. Et selon moi, la période de feedback, la période de commentaires sera véritablement un test, parce que nous devrons nous assurer que les traductions sont vérifiées un petit peu par des râleaux qui ont une connaissance forte de la traduction, parce que le problème, je le sais un petit peu, hein, vous avez d'excellents interprètes et traducteurs, mais ce sont des généralistes. Et il faut se spécialiser beaucoup pour être en mesure de faire passer la terminologie, de connaître la terminologie et la culture et de communiquer ces différentes cultures. C'est extrêmement complexe. Donc, avant de mettre quelque chose officiellement sur la table, eh bien, il faut qu'il soit vérifié un petit peu et ça demandera beaucoup de travail au niveau des communautés linguistiques. Bon, ma question est pour Denis au sujet du chinois, par exemple. Est-ce que les participants venaient de plusieurs parties du monde ou bien est-ce que c'était principalement des personnes qui étaient sous une autorité centrale, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, Denis, je ne suis pas à même de répondre à cette question. C'est un panel technique et je ne sais pas. Mais Andrew peut nous dire s'il y avait des personnes qui n'étaient pas de Chine. Oui, il y en avait qui n'étaient pas de Chine. Et je crois qu'il y a quelqu'un du panel qui peut peut-être nous répondre. Oui, excusez-moi, Chris. Oui. Oui, je m'appelle Chris Dillon. J'ai travaillé à ces textes chinois. Il y avait des experts qui provenaient de la Chine, de Taïwan, de la Corée du Sud et du Japon. Donc, et vous-même, vous étiez donc, oui, membre du panel. Et il y avait quelqu'un de Toronto. Oui. Donc, moi, je ne sais pas s'il était contrôlé par une autorité centrale. Donc, je ne peux pas le dire, tout simplement. Oui. J'avais posé cette question parce que l'on sait comment ça se passe. Et je voulais m'assurer que s'il y avait une ou plusieurs personnes de Chine, qu'il y ait des personnes de Taïwan ou d'un Chinatown de San Francisco ou de Londres, soient en mesure de donner leur opinion et qu'ils soient respectés au même niveau. Parce que vous savez, pour les langues, ça n'appartient plus aux États, ça appartient aux communautés. Moi, je suis un francophone et le français n'appartient plus à la France, mais aux Maliens, aux Canadiens, à beaucoup de gens. Il s'agit de la francophonie. Et il faut être très inclusif. Et je voulais m'assurer que ça avait été le cas et qu'il y avait un respect dans ce cadre. Oui, ça a été très précis. Et je vais continuer à travailler sur ce thème. Un point de clarification, Jean-Jacques. Est-ce que vous posez... Est-ce que vous voulez que ça soit inclus dans notre réponse? Est-ce que ça doit être un élément des panels primaires à venir? Et un autre point de clarification, vous avez mentionné être traduit et vérifié par les RALO. Est-ce que vous parlez de ce document ou est-ce que vous parlez de tous les documents des programmes ou est-ce que vous parlez des rapports du panel primaire ou secondaire? Oui, je vais répondre à votre deuxième question en premier. Idéalement, vous devriez faire les deux. Donc, couvrir un champ maximal et montrer que les points essentiels sont couverts en plusieurs langues. Et au niveau de votre première question, je demanderai officiellement à un membre de l'ALAC soit pris en compte et intégré dans les réponses, parce que il me semble, comme je l'ai dit il y a une minute, que les langues et les scripts n'appartiennent plus au pays, aux États souverains. On a dépassé ça il y a bien longtemps. Et la communauté turque en Allemagne. Le chinois est dans le monde entier, y compris en France. Et je ne voudrais pas qu'un gouvernement ou qu'un État souverain dise qu'il est le seul propriétaire d'une langue et puisse déterminer quelle est cette langue. En termes légaux, par exemple, la France ou le chinois, il y a des règles. Les standards de la langue française ou de la langue chinoise, de l'écriture, l'Académie française ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus complexe sur l'Internet. Merci beaucoup, Jean-Jacques Denis. Oui, merci. C'est très bienvenu. C'est une inquiétude. C'est une de nos préoccupations. Et je crois que la question du rapport chinois avait une représentation très diverse. Pour l'arabe et pour toute l'Afrique, les Philippines, où l'arabe est parlé, il y avait moins de diversité, me semble-t-il, pour le panel qui a travaillé sur l'arabe. Le cyrillique, c'était l'Europe de l'Est, mais pas des anciennes fédérations associées à l'URSS. Donc, je crois que le chinois avait la plus grande diversité au niveau du panel. C'est très complexe d'obtenir une participation de toutes les communautés qui utilisent un script ou un type d'écriture, parce que certaines de ces langues sont parlées dans de très nombreux endroits, y compris dans des endroits où on n'utilise pas encore l'Internet. Donc, c'est un défi à relever. Il y a beaucoup d'aspects sensibles également sur ces questions, comme vous le savez. Oui, merci beaucoup, Denis. Oui, je crois que nous avons bien débattu. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur le même thème, sur la proposition du panel secondaire? Donc, la décision, je ne dis pas que la décision devrait être finale, mais il n'y a pas de processus d'analyse du panel, sauf par le personnel de l'ICANN. Donc, pas de processus d'analyse, sauf du personnel de l'ICANN, s'il y a un gros problème avec le panel. Donc, voir s'il y a des changements qui doivent être faits à long terme. Donc, est-ce que ça, c'est une inquiétude pour la communauté, Jean-Jacques? Oui, merci. Oui, Edmund, je crois que vous avez soulevé un point très important. Je n'ai pas suivi cela d'assez près. Je ne me rappelle plus si vous avez les mêmes principes et le même raisonnement que pour le reste de l'ICANN, des analyses périodiques. Un système de responsabilité très strict. L'analyse ne serait pas effectuée par le groupe lui-même ou par le groupe seul, mais par des experts externes pour assurer la neutralité. Donc il me semble que ce serait une bonne idée d'inclure, si vous ne l'avez pas encore fait, je ne me rappelle pas, mais inclure dans le cadre plus large des analyses périodiques, peut-être tous les 2 ans, tous les 5 ans, je ne sais pas, mais il faut y réfléchir. Oui, merci Jean-Jacques. Andrew? Oui, Andrew Sullivan, au micro. Une des raisons pour lesquelles l'ébauche telle qu'elle n'inclut pas d'analyse périodique est que si nous créons une équipe d'analyse périodique et si nous trouvons des experts pour ce faire, eh bien, le panel secondaire n'aurait plus cette expertise de reconnu. Je crois qu'il n'y a que très peu de personnes dans le monde. Si on utilise 2 des 10 experts du monde, il ne reste que 8 personnes qui pourraient le faire. 5 personnes ont des conflits d'intérêts et donc il n'y a plus personne pour siéger au panel secondaire. On a un problème de ressources humaines. C'est très spécifique, très précis comme expertise pour être au panel secondaire. Et c'est pour cela que, selon moi, ce qui serait mieux, c'est d'utiliser l'approche des commentaires publics pour gérer le comportement du panel secondaire. Et nous avons également la responsabilité administrative de l'ICANN et le contrôle étroit de l'ICANN. Je pense que de rajouter une couche supplémentaire d'appel, de procédure d'appel, eh bien, on ne trouvera pas les personnes pour siéger dans ces commissions, dans ces groupes, et ça deviendra très difficile de commenter efficacement. Nous avons des rapports que nous allons publier pour les commentaires publics, mais s'il n'y a plus personne qui reste, qui soit à même de répondre, à même d'être des experts qui soient en mesure de répondre, ce sera un problème. Donc, je résiste beaucoup à cette idée. Jean-Jacques ? Oui, j'aimerais rebondir là-dessus. Merci, Andrew. Je crois que j'ai noté votre point. L'unité administrative doit vérifier la validité du travail qui est effectué. Mais je ne pense pas que cela devrait exclure un système d'analyse, tout simplement parce qu'il n'y a pas de ressources humaines disponibles. Si c'est vraiment le problème à long terme, eh bien, c'est le devoir de ce groupe et d'ICANN de se préparer à la formation d'un nombre suffisant de personnes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes sur Unicode spécialisées, des experts ? C'était très restreint, parce que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le terme. Ça n'a jamais été communiqué, promu. Mais maintenant, il me semble que cela est beaucoup plus identifié et que lorsqu'il y a un besoin, lorsque ce besoin est connu, vous trouvez des bénévoles et il faut qu'ils soient formés pour arriver à un haut niveau. Oui, merci Jean-Jacques. Nous avons... J'aimerais clarifier un petit peu et ensuite rajouter quelque chose sur ce qui a été dit par Jean-Jacques. Et on parle de process aujourd'hui, de processus. Pas seulement si c'est tort ou raison, mais on recherche un processus. Est-ce que c'est le processus que nous voulons ? C'est ça ce qui est important. Ce processus d'analyse ne doit pas toujours inclure le type d'expertise qui est nécessaire pour le panel secondaire. Vous avez parlé des commentaires publics, mais les commentaires publics ont trait aux décisions. Les commentaires publics seront des propositions spécifiques du panel primaire, secondaire. Ça ne sera pas ouvert, ces commentaires publics, disant « est-ce que le processus fonctionne bien ?» On parle là, aujourd'hui, de processus. Nous sommes... Oui, Andrew Sullivan. Donc, je ne vois pas le problème. Lorsque je fais des analyses sur des commentaires publics, si je crois que la procédure n'est pas valide, je le dis dans mes commentaires. Je crois que c'est tout à fait légitime de dire dans les commentaires publics que le processus n'est pas satisfaisant. Le problème, ce sont les conflits d'intérêts de la plupart des personnes. Dennis Renalia, Dennis Jennings. Oui, lorsque l'on utilise le terme « review » en anglais, « analyse »,« revue », je crois que qu'est-ce que l'on analyse ? Qu'est-ce que l'on revoit, passe en revue ? Est-ce que c'est un appel des décisions techniques ? Ça ne va pas fonctionner, procédure d'appel des décisions techniques. Mais le contrat qu'ICANN a avec les membres du panel secondaire, ça, c'est un autre élément. pour l'analyse. Donc, est-ce que la composition du panel primaire a été satisfaisante pour tous les utilisateurs de ces scripts? Ça, c'est une autre question. Donc, attention lorsqu'on utilise ce terme « analyse ». Qu'est-ce qui doit être analysé et comment? Oui, merci, Denis. Je crois que on ne donne pas une analyse qui va provoquer la colère d'Andrew, non? Oui. Que ce soit un type spécifique d'analyse ou un contrôle administratif, lorsqu'il y a un problème de comportement et que vous devez retirer un membre du panel, il me semble qu'on ne sera pas en mesure de faire cela parce qu'on n'a pas assez d'experts. Donc c'est un véritable dilemme, parce que c'est un petit peu captif comme système, et je suggérerais que la formation, comme le disait Jean-Jacques, soit effectuée pour avoir un vivier plus important d'experts auxquels on pourrait faire appel. Je crois qu'il faut penser à long terme et nous assurer que nous avons un vivier d'experts, que ce soit des suppléants ou pas, par rapport aux membres du panel. Jean-Jacques et Denis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Renalia a dit. Et d'après ce que je sais, cette douzaine de personnes dont vous parlez, Andrew, sur l'Unicode, eh bien, ils ne pensaient pas aux problèmes linguistiques, aux problèmes de script. C'était principalement des ingénieurs, des techniciens, des personnes techniques de très haut niveau. Certains d'entre eux, ce sont des, ils font de la computation linguistique. Donc, ce dont on parle d'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des doctorats en sciences informatiques. Donc ça peut changer. Ça dépend de nous. La description que vous donnez, c'est pour de 1970 à 2000, peut-être. Ça dépend de nous, de vous, de votre groupe, de changer cette situation et de souligner l'importance d'avoir un vivier, en effet, de personnes qui soient à même de tenir ce rôle et de s'engager. Et c'est en raison du nombre d'une dizaine ou une douzaine de personnes spécialistes qui sont motivées. Donc, c'est ce que je voulais souligner. C'est à vous, c'est à nous de faire un appel, comme un appel convaincant pour recruter des personnes à ce niveau. Merci beaucoup, Jean-Jacques.
Alors, c'est Dennis Jennings. En fait, je pense qu'on a déjà parlé, on a discuté cela, dans le sens qu'on parle d'un panel secondaire qui aura 4 ou 5 experts. Mais en plus, on cherche un vivier de ce qu'on appelle des conseillers techniques, 6 ou 10, qui seraient disponibles comme ressources pour conseiller les panels principaux. Et tant que ces panels et ces consultants ne travaillent pas dans les panels, dans le panel principal par exemple, donc ils ne pourraient pas travailler dans le panel secondaire, on va créer une équipe avec expertise qui ne va pas résoudre le problème, mais qui pourrait peut-être l'aborder. Donc si vous lisez la version suivante, vous verrez qu'on parle plus des conseillers comme ressources. Et vous verrez, Jean-Jacques, que cela veut dire les consultants. Mais si un conseiller passe à intégrer un panel principal, il ne peut pas être un expert dans le panel secondaire. C'est ainsi, si on fait partie du processus de proposition, on ne peut pas prendre des décisions. Rinalia, oui, je voudrais une précision de Andrew. Pour le contrat des panélistes secondaires, est-ce qu'on va identifier ce que serait le comportement que l'on ne veut pas? C'est une bonne question, mais la bonne réponse, dit Andrew, certainement va porter sur le développement du contrat. Ce qu'on aura dans la procédure sera un ensemble de principes et de buts. Si on se dit on a des principes de ce qu'est le bon comportement, le comportement qu'on espère avoir, et on a des buts contre lesquels on doit essayer d'atteindre un équilibre et on doit faire des concessions. Donc, par exemple, on voudrait que la procédure soit objective et inclusive, autant que possible, en fait, pour ne pas avoir un type de caractère par-dessus un autre type. Ça, c'est un but de la procédure. D'autre part, on a le principe des conservateurs qui excèdent ces principes, et ce sont des principes qui restreignent notre travail, qui le limitent. Et c'est notre intention, en quelque sorte. On ne peut pas spécifier ce que serait la bonne décision. Si on le faisait, on devrait directement dire ce dont on a besoin des panels. Mais les obligations contractuelles correctes, dire que les procédures doivent être mises en place de façon équilibrée, sans être inclinées envers la favorisation d'un aspect par-dessus un autre, de faire de notre mieux pour pouvoir mettre en place les procédures. Mais je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas le spécifier. Mais à mon avis, c'est ça le genre de contenu qu'on devrait avoir. Toute cette procédure a des jugements le long du processus. Mais on doit aussi avoir d'autres facteurs en compte ici. Les gens qui vont intégrer les panels vont être des experts. On n'a pas beaucoup d'experts de ce genre au monde. Mais leur réputation professionnelle est aussi en jeu à chaque fois, tout le temps. On ne peut pas espérer avoir des experts qui ignorent les évidences qu'ils ont quand ça leur convient. Ils vont essayer de maintenir leur réputation professionnelle parce qu'ils sont très peu d'experts à ce niveau. Après, à un moment donné, on n'est plus un expert, on devient un clown sinon. Mais même à l'extérieur des spécialités académiques, on se rend compte, en fait. Si on ne comprend pas la spécialité, on se rend compte de toute façon que la personne n'agit pas comme devrait le faire, qu'il n'est pas professionnel. Et peut-être qu'il est un visionnaire et qu'il a raison, et on le saura dans 20 ans, ou alors il est fou. C'est cette valeur de la réputation dont on, où on fait confiance pour intégrer le panel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger, mais on a besoin de compter sur cette responsabilité professionnelle. Très lentement, le temps coule et j'ai d'autres choses à dire aussi. Alors, on va avoir Denise. Je suis Denise, je dois partir, mais j'ai une question importante. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un ticket pour le gala? Parce que moi, je ne vais pas aller. Et toutes les autres questions maintenant, dit Edmond, paraissent ne plus avoir d'importance. Bien. Alors, YJ, tu avais un commentaire. Oui, dit YJ, c'est puisqu'on n'a pas de chronogramme pour la formation de ce panel, j'ai une suggestion spécifique. Vous pouvez suivre une des options, en fait. Cette réunion et la réunion du GAC aussi interprète les documents. Et donc, ce qu'on interprète est qu'il y a deux directions à suivre. D'un côté, ici, vous montrez qu'on a des experts qui parlent très bien l'anglais et qui, en même temps, comprennent bien d'autres écritures, etc. Mais d'autre part, on a des experts locaux qui pourraient contribuer avec leur compréhension de leur propre écriture et leur propre langue. Donc, si on pouvait identifier ces experts dans les groupes locaux pour qu'ils travaillent ensemble avec les personnes qui vont interpréter et les bénévoles, Donc, par exemple, pour les experts en coréen, je serai prête à participer, à les aider à parler avec la communauté pour ma langue et pour les aider à organiser ce genre de travail de communication pour les bénévoles. Et ce serait peut-être une bonne idée, il faudrait le considérer. Mais si vous avez le temps pour former ces panels, on aurait aussi un équilibre de bénévoles et d'experts qui sont payés par ce processus d'ICANN. Merci YJ, c'est Edmond. Donc je voudrais finir avec cette partie particulière de la discussion. On a beaucoup discuté du panel secondaire et je voudrais que tout le monde soit d'accord sur ce sujet. On a mentionné la diversité du groupe. C'est ce qui nous préoccupe. On pense que c'est important. Ça a trait au nombre limité d'experts qui existent, ce qui nous préoccupe. ICANN doit considérer ce problème davantage. On a aussi mentionné que pour le processus de révision, ce n'est pas les mairies des décisions techniques, mais le processus et la révision générale qui est intéressant du point de vue d'ALAC. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça notre point de vue. C'est bon, Jean-Jacques? Jean-Jacques Suprenin. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que Andrew a dit. Indépendamment de cette approche de révision, ce serait aussi bon de suivre cette approche plus administrative que ce que Andrew avait proposé. Merci. Merci, dit Edmund Chung. Donc, la dernière partie de la suggestion était qu'on avait un manque d'explications ou des éléments moins lisibles par rapport à la relation avec les processus de CCTLD, de variantes IDEN, des nouveaux TLD et davantage ce qu'on n'a pas discuté dans le document. Ce n'est pas expliqué dans le document. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Benalia? Merci Edmond, je suis Benalia. Je suis d'accord, je pense que c'est pertinent. Merci. Merci, dit Edmond. Merci. Alors, je pense qu'avec ça, on a fini avec la réponse. Je vais reformuler les notes sur la base de notre discussion. Ça va sûrement nous prendre plus de temps de le refaire. On ne va pas pouvoir respecter le délai du 19 octobre et Dennis est parti. Donc, je voudrais savoir si Andrew peut nous dire comment résoudre ce problème ensemble pour pouvoir le 4 octobre, la période de réponse a commencé. Bien. On a Francisco qui nous rejoint. On voit aussi que cette période de commentaires publics particulière finit pendant une réunion d'ICANN et la communauté nous a dit plusieurs fois de ne pas le faire. Francisco prend la parole. L'alternative était... Je suis Francisco Arias des équipes d'ICANN. Je travaille à ce projet 2.1. pour les variantes IDN des nouveaux GTLD d'Atlarge. L'idée était que la période de commentaires publics finisse avant, mais on a décidé d'élargir le délai, de le remettre pour pouvoir inclure cette réunion et pour que les gens voient ce qu'on était en train de faire et pour pouvoir recevoir leurs contributions. En tout cas, une façon de résoudre ce problème, si vous avez besoin d'avoir plus de temps pour faire des contributions, ICANN a des observateurs dans le processus et peut-être que cet observateur peut remettre les commentaires à l'équipe et on les prendra en compte, même si c'est au-delà de la fin de la période de commentaires publics. Il faudra que je demande à Andrew quand ce sera pour qu'on puisse l'inclure pour la prochaine période de commentaires publics. Mais je pense qu'il y a une bonne mécanique avec les observateurs. Merci, Francisco. C'est Edmond. Je vois qu'on a une période de réponse aussi jusqu'au 9 novembre. Donc, peut-être qu'on pourrait l'inclure là. Mais l'idée est de le finir dans les prochains jours et pour le passer à l'acte. J'espère qu'on pourra miraculeusement finir avec une version vendredi et sinon on travaillera avec cette date du 9 novembre. Et alternativement, on va l'envoyer à Rinalia. On avait une question à distance. Bon, en tout cas, alors, on va continuer. C'est Edmond avec le prochain sujet. Il ne nous reste que 15 minutes, mais c'est un sujet qu'on a discuté pendant un an, ce qui est incroyable. Bon, je ne peux plus avancer les diapositives. Et donc, c'est les étapes à suivre, les pas à suivre. On aura une autre séance demain. Allez-y. On a aussi rédigé une déclaration sur le CCPDP des IDN. C'est assez général. Il est similaire au Fast Track. On a appris, beaucoup appris, et on a tiré des leçons qu'on a incluses. Et on a aussi l'urgence des variantes IDN du programme des TLD. On votera dessus demain, je pense. Lisez cette déclaration. Je pense qu'elle est assez bien. Et je vois que Hong voulait ajouter un commentaire là-dessus. Oui, je suis Hong Shui. Merci, Edmond. J'ai lu ce document CCPDP sur les IDN. Je suis déléguée de la Chine pour le CCTLD national, ce que j'ai oublié de dire. Et ce qui me semble étrange est que la contingence des groupes de travail des CCTLD, des IDN des CCTLD inclura un standard objectif. C'est-à-dire que ce sera indépendant des variantes des langues, des écritures. On va se servir de l'exemple du chinois, par exemple. Pour nous, les CCTLD des IDN, en chinois, on sent que c'est très confus parce que les deux sont très semblables. Mais si vous ne parlez pas le chinois, visuellement, vous avez deux chaînes complètement différentes. Je comprends que c'est une évaluation objective, mais cela sera inclus dans la liste des CCTLD. Pensez-y, c'est la communauté CCTLD. Cette communauté veut souligner la différence pour les différentes diversités, les différentes communautés locales. Si vous avez des gens qui se servent de ces chaînes, on devrait faire attention pour la coexistence et plutôt pour la cohérence que pour la coexistence de tous les CCTLD. Je sais qu'on parle des AC, des SO, des PDP. Et le groupe de travail qui travaille là-dessus a dit qu'ils ont déjà réglé ce problème et qu'il y aura simplement des procédures dorénavant et qu'on ne peut pas le modifier. Mais je voudrais qu'on le considère maintenant. Merci Hong, c'est Edmond. Je ne sais pas si je comprends tout à fait ta question. Il paraît que c'est un processus différent du processus des nouveaux GTLD. Le processus des nouveaux GTLD a un processus de chaînes qui sont confuses parce qu'elles sont trop semblables. Et le processus des CCTLD n'a pas ce genre de processus. Donc, le processus des CCTLD, en fait, protège davantage les CCTLD des IDN même. Et peut-être que si c'est semblable au niveau visuel, ce sont deux chaînes différentes et qu'on devrait les comprendre. Donc, en quelque sorte, on donne davantage de protection pour chaque CCTLD IDN particulier. Bon, alors, peut-être que je n'ai pas compris quelle était ta préoccupation. Bien, je vais me reprendre. Pour le cas des IDN CCTLD, j'ai donné un exemple. Pour les gens de Bulgarie, ils ont des caractères qui sont très confus aussi avec le point BR. BR, c'est le CCTLD du Brésil. Mais le panel technique d'ICANN a donné leur évaluation. Ils ont dit qu'il y avait des chaînes qui étaient trop semblables, que c'était confus. Il n'y a pas d'objection au-delà des procédures. On n'a pas de procédure d'objection pour éviter la confusion. On l'aura pour le fast-track, mais mettons ça de côté. Alors, tu dis d'un côté, c'est Edmond qui parle, que le résultat du CCTLD, du CCPDP, ne tient pas compte des révisions périodiques, qu'on ne peut plus les modifier. C'est ça qui te préoccupe, n'est-ce pas? D'autre part, ce que tu dis est qu'on n'a pas résolu le problème de la Bulgarie. C'est ça? Hong Shui, merci. On ne peut pas le dire, en fait, parce que le processus pour les CCNSO est trop compliqué. On a deux groupes de travail qui travaillent parallèlement. Et seulement le premier groupe de travail a présenté cette version préliminaire. On a un deuxième groupe de travail qui devrait s'unir au premier groupe pour qu'il fasse un rapport final. On ne sait pas si on va les intégrer. Peut-être qu'on pourrait les intégrer pour ce PDP. Ce serait très bon de le faire. Et oui, en deuxième lieu, on ne pourrait pas résoudre le problème avec la Bulgarie, par exemple. Ce n'est qu'un cas, c'est peut-être un cas trop particulier et que ça pourrait arriver encore une fois. Merci, Jean-Jacques. Oui, c'est Jean-Jacques. Mon premier commentaire est que ce n'est pas ici, dans ce groupe et en ce moment, qu'on va pouvoir résoudre ce problème qui est très important, certainement. Mais donc, du point de vue des procédures, je suggère que ce groupe prenne note des remarques de Hong et qu'on pourrait peut-être lui suggérer qu'elle t'envoie ses remarques par écrit. Parce que c'est difficile de le formuler en 2 minutes, j'imagine. Donc, en tant que présidente de ce groupe, elle devrait vous envoyer ses remarques pour qu'on les tienne en compte et on les inclut dans les conclusions de la réunion d'aujourd'hui. C'est ma première suggestion. Puis, d'autre part, je soutiens les remarques de Hong du fait qu'en chinois, ce qui lui paraît confus n'est pas toujours le cas. Donc je voudrais en fait soutenir ce que Hong dit là-dessus. Si on parle pas le chinois, peut-être c'est similaire, mais ce n'est pas le cas si l'on parle le chinois. Et puis, pour les utilisateurs locaux de ces écritures, de ces langues qui sentent qui sont dépossédées ou expropriées si on leur demande de choisir. Merci Jean-Jacques, c'est Edmond qui parle. Sur le wiki, on a la version préliminaire actuelle. Et je pense que si vous pouvez suggérer un paragraphe à ajouter, on pourra le faire certainement. Et puis, Cela, bien sûr, est important, c'est une inquiétude, mais on n'est pas sûr si on l'a déjà pris en compte. Si on a un commentaire public, par exemple, qui dit « Apparemment, vous pouvez résoudre ce problème, mais ça ne se voit pas dans la version préliminaire actuelle. » Alors, tu vas écrire, tu vas m'envoyer. Parfait. Avant demain. Ça doit être avant demain. Bien, parfait. Le CCPDP des IDN, oui. Et c'est dans l'ordre du jour pour demain, oui. Et on a une modification amicale. Modifie-le sur le wiki, c'est ce que Heidi dit. Olivier? Merci, c'est Olivier pour le procès-verbal. Heidi, je suis arrivée très en retard, donc je m'excuse, mais est-ce que tu penses que ces modifications amicales devraient constituer des modifications pour les membres qui devraient lire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent être d'accord avec cette modification 5 minutes après l'avoir lue? Olivier, c'est Heidi. Je l'ai noté comme considération A dans l'ordre du jour. Ça pourrait dire discussion, vote, ce que vous voulez. Merci. C'est Edmond. Alors, on n'a plus vraiment le temps, mais je passerai les prochaines 4 minutes. Sur un sujet qu'on a beaucoup discuté. Matt, mes diapos. Bien. Donc, on a parlé d'avoir une stratégie, une discussion sur la stratégie des IDN au long terme, et je voudrais que les prochaines minutes, on le discute, bien qu'on n'aura pas vraiment le temps, mais pour commencer au moins à travailler sur ce processus, pour qu'on puisse créer un document de conseil pour le directeur d'ICANN et ICANN en général. J'ai identifié trois points. D'une part, l'internationalisation d'ICANN, qui est un problème clé, puis les implications des IDN. Et je voulais parler donc des impacts que les IDN pourraient avoir au sein d'ICANN et à l'extérieur d'ICANN, et le rôle potentiel ou le rôle d'ICANN. On a 1 minute pour discuter. Donc, le concept est de couvrir tous les aspects des IDN et de discuter le rôle actuel d'ICANN et le rôle potentiel d'ICANN pour fixer nos objectifs et nos principes et pour travailler avec d'autres organisations. Donc, en peu de mots, c'est ça que je propose, Jean-Jacques. Merci, c'est Jean-Jacques Subrenin. J'ai une remarque générale. Je trouve qu'il s'agit d'un modèle ou d'un schéma très bon pour développer notre travail. Je ne vois pas 2 autres points là-dessus, mais peut-être vous les avez inclus mentalement. Pour chacun de ces points, quelles sont les ressources, les exigences par rapport aux ressources humaines ou physiques, et puis quel serait le cadre temporel, en quel délai est-ce qu'on travaillerait, parce que finalement, ça pourrait être possible ou impossible selon les ressources. Ça dépend des ressources, toujours. Et du calendrier, bien sûr. Et peut-être que vous ne pourrez pas donner des éléments à ce point-là sur les éléments que vous avez inclus. Mais je voudrais qu'autant que possible, vous nous donniez des indications sur comment vous voyez ces points, parce que ça aidera la discussion en 2 niveaux, entre nous et dans votre groupe, pour toujours tenir compte des restrictions physiques, des restrictions de ressources, et puis la restriction temporelle aussi, parce que l'on peut avoir des résultats en 6 mois, ou alors des résultats en 2 ans. Ça dépend du projet, on doit être conscient des limitations. Merci Jean-Jacques, c'est Edmond. Je veux être sûr que j'ai bien compris. Il vous semble que ce serait très utile que pour chacun des points... Bien. On n'a plus le temps. Je me demandais si Wajay ou Rinalia avaient d'autres commentaires par rapport à ces points que je viens de présenter. Wajay, est-ce qu'on pourrait te passer nos commentaires plus tard? Oui, bien sûr, c'est Edmond. Je viens d'envoyer cela sur la liste il y a quelques heures. Et avant de partir, Rinalia, tu voulais ajouter quelque chose avant de clore cette séance? Merci Edmond, c'est Rinalia pour le procès verbal. Ce serait un bon point de base pour commencer à avoir cette discussion dans le groupe de travail. On pourrait peut-être le diviser et commencer à discuter point par point. Merci Rinalia, c'est Edmond. Je pense qu'on est à la fin de cette séance. Mais on a discuté la possibilité d'organiser des réunions du groupe tous les mois. J'espère qu'on pourra le faire. Est-ce que ça veut dire non? Vous êtes pour? Vous êtes contre? On n'a même pas le consensus. Jean-Jacques Subrenin, Edmond, tu ne sais pas qu'on n'a pas le consensus. Je pense que c'est une question d'assignation de temps. Ce ne serait pas décent de la part de contributeurs occasionnels, et je parle pour moi, de trouver le temps tous les mois pour se réunir. Mais pour ceux qui ont contribué jusqu'à présent et qui avaient le temps, ça dépendra de vos possibilités. On est accessoires, on espère être utile, mais on est des accessoires à votre travail. Rinalia qui parle. Je voudrais vraiment pouvoir utiliser les listes de postage et le wiki autant que possible et ne nous réunir que lorsqu'on a quelque chose à discuter par rapport aux discussions, aux conflits, à la construction de consensus, etc. Bien, oui, je suis d'accord, on va travailler comme ça, dit Edmond. Et puis si on a besoin d'avoir des appels, on fera des appels et à travers la liste de publipostage aussi. Et alors, je pense que cette séance peut être clôturée. Je vous remercie tous de nous avoir rejoints et je voudrais en même temps remercier les interprètes, les techniciens, et à tout le monde, tous qui ont fait que cette séance soit une possibilité, bien sûr au personnel, Heidi, Matt et Sylvia. Merci à tous. Au revoir.